Nous remercions pour l'accueil cette semaine, pour la collaboration dans l'œuvre de l'Évangile. Merci en particulier aux anciens, aux hôtes, les personnes qui nous ont hébergés et aux personnes qui ont préparé des bons repas pour l'équipe durant la semaine. Ça a été très apprécié. Nous avons eu le privilège cette semaine de discuter avec beaucoup de personnes qui habitent les Trois Colombes. Nos discussions ont gravité autour d'une question en particulier. C'est une question d'une importance capitale pour chaque être humain. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question qui se trouve au cœur de la portion de la Bible qui nous intéresse maintenant. Une question qui y est posée directement, une question qui y trouve des réponses. Il s'agit de cette question. Qui est Jésus ? Or, la partie de la Bible que nous allons considérer concerne un moment particulier dans la vie de Jésus, un moment que nous commémorons à ce stade de l'année, un moment que nous qualifions parfois de dimanche des rameaux. Nous aurons l'explication de ce terme rameau tout à l'heure. Je vous invite à voir sous les yeux la page 634, la page 634 de cette version de la Bible, la biographie de Jésus préparée par Matthieu, chapitre 21, page 634. Et pour les personnes qui sont sensibles aux questions de calendrier, donc nous nous situons à 7 jours de Pâques, le moment où nous nous souviendrons de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 2 jours auparavant, le vendredi saint, c'est le moment où nous nous souvenons de la mort de Jésus sur la croix. Et puis ce dimanche, 7 jours avant le dimanche de Pâques, nous nous souvenons du moment où Jésus est entré dans la ville où il allait être mis à mort, Jérusalem. Et la question est à l'ordre du jour. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Nous avons entendu toutes sortes de réponses à cette question dans le courant de la semaine. Parmi ces réponses, un grand prophète qu'il faudrait bien respecter. On entend ça, bien entendu, chez les personnes musulmanes. Difficile de savoir comment résumer cette catégorie. Un guide, un conseiller, un sage, un enseignant qui peut nous instruire. Mais à vrai dire, ses idées, ses paroles ne sont pas forcément à prendre au sérieux. Quelqu'un qui était doté d'une certaine puissance, un guérisseur. Nous avons entendu cette semaine la réponse « Fils de Dieu » ou « Sauveur ». Mais là, il a fallu gratter un peu pour savoir ce que nos interlocuteurs avaient en tête. Et puis certains étaient heureux de constater que nous avions des convictions, que Jésus était important pour nous. Enfin, beaucoup ont répondu en disant « ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas ». Nous avons eu nos premières conversations autour de Jésus lundi en fin d'après-midi. Imaginez ce cas de figure. Un membre de notre équipe, Caroline, discute lundi après-midi avec une jeune dame prénommée Sarah. Au cours de la conversation, Sarah pose la question à Caroline. « Mais ce que je voudrais savoir, Caroline, c'est ce que ça donne dans la pratique de croire en Jésus. Qu'est-ce que ça change ?» Et dans le courant de sa réponse, Caroline émet ce propos. « Vous savez, il y a une partie de moi qui voudrait que vous passiez une semaine dans un foyer chrétien. Parce que vous verriez dans ce cas-là que la vie chrétienne est attirante. » Ça donne envie. Si vous pouviez connaître des croyants en Jésus-Christ, par exemple des gens de cette église-là, elle pointe du doigt ce bâtiment, alors vous comprendriez ce que je veux dire. Sarah réfléchit. Et elle finit par dire ceci. D'accord. Je suis disponible cette semaine. Je serai heureuse de passer quelques jours chez des gens de cette église. Caroline invite Sarah à rencontrer le pasteur Trevor dans son bureau. Et Trevor téléphone tout de suite chez un couple qui fréquente cette église, tous deux croyants en Jésus-Christ. Sarah passe la semaine chez ce couple. 6 jours plus tard, dimanche, aujourd'hui, bilan. Nous allons poursuivre avec cette petite histoire dans quelques instants. Mais d'abord, je vous invite à lire avec moi quelques phrases de la Bible et à être sur le qui-vive pour la question « Qui est Jésus ?» et sur le qui-vive pour les réponses qui y figurent. Matthieu, chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ? » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » À ce stade, Jésus a déjà expliqué qu'il lui faut se rendre à Jérusalem. À l'époque où il déclare cela, il se trouve bien au nord, à environ 100 kilomètres de Jérusalem. Si on a en tête la distance entre Compiègne et ici, ça va plus ou moins suffire. Jésus parcourt cette distance à pied. Et maintenant, première phrase de ce que nous venons de lire. Il est sur le point d'arriver à Jérusalem. Il lui reste, je ne sais pas, les 2 derniers kilomètres. Et il explique qu'il a besoin d'un âne. On peut se demander, mais pourquoi ? Et on pourrait croire que c'est parce qu'il est fatigué. Mais il n'y a aucune indication de cela dans le texte. Il me semble que ce récit nous invite à réfléchir aux raisons de cette démarche de vouloir monter sur un âne. Et en effet, le premier paragraphe fournit une description des préparatifs conduisant à cette démarche. Nous constatons que c'est une démarche planifiée, réfléchie, intentionnelle. Nous sommes en présence d'un geste symbolique destiné à dévoiler l'identité de Jésus. C'est notre premier point ce matin, dans ce premier paragraphe allant jusqu'au petit 3, un geste symbolique. Oh, pour bien comprendre cette partie de la Bible, il faut tenir compte de ce qui précède dans la première grande partie de la Bible, car des éléments sont repris. Qui est Jésus? Eh bien, sachons que quelqu'un est déjà monté sur une mule dans la première grande partie de la Bible. Quelqu'un d'important, un roi, lors de son intronisation. Le roi Salomon, le roi connu pour la paix. Ce geste symbolique nous permet de comprendre que Jésus est un nouveau Salomon, en quelque sorte, dont l'intronisation est sur le point d'avoir lieu. Un homme de paix, à l'instar de Salomon, va être sacré roi à Jérusalem. Et j'attire notre attention sur le mot de passe, en quelque sorte, qui est confié aux disciples. Les disciples doivent se procurer une ânesse et un ânon, et à cette fin, ils sont susceptibles de devoir employer un mot de passe. Le numéro 3 là, le Seigneur en a besoin. Vous voyez que Jésus s'auto-désigne Seigneur. Au regard de la première grande partie de la Bible, c'est là une façon de se placer sur un pied d'égalité avec Dieu. Et en effet, c'est là son statut. Le Seigneur, le Suprême, l'unique Dieu, le Maître. Ce Jésus est un roi, mais pas comme les autres. Avec mon épouse Myriam, j'ai visionné récemment sur Netflix la série The Crown, la couronne. Elle concerne la reine Elisabeth d'Angleterre, et en particulier les premières années de son règne, dans les années 50. Et au moment de son intronisation, son oncle, exilé, apporte ce commentaire sur ce qui se passe.
Oh, c'est une jeune femme ordinaire, de compétences modestes et avec peu d'imagination. Mais à force de la vêtir, comme vous le voyez, comme à force de loindre un peu d'huile, on croit avoir affaire à une déesse.
Les Britanniques ont une très haute estime pour la reine, et pour cause. Mais il y a du vrai dans les remarques cyniques de son oncle. Au final, c'est un être humain, assez ordinaire. Il n'en est pas ainsi de Jésus. Lui, c'est le Seigneur, le Suprême, l'unique Dieu. Et c'est ainsi que Jésus agit. Lisez cette biographie de Jésus et vous allez voir, il y a des exemplaires que vous pourriez vous procurer en sortant. C'est ainsi que Jésus agit ici même, au moment d'envoyer les disciples chercher l'ânesse et l'ânon. Vous voyez sa maîtrise des événements, son autorité. Numéro 2 là, allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée, un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva. Que personne n'imagine que Jésus soit un simple guide, un peu faible, dont les paroles ne sont pas forcément à prendre au sérieux. Jésus se désigne comme le Seigneur. Il se révèle Dieu en chair et en os. Il incombe à chacune, à chacun de reconnaître son autorité. Mais c'est le petit paragraphe qui suit qui nous permet de comprendre la signification de ce geste symbolique. Là, ce qui nous est fourni, c'est une explication révélatrice, notre deuxième point ce matin, une explication révélatrice à partir de là où il est marqué 4, petit 4. Le fait de monter sur l'âne correspond à l'accomplissement d'une prophétie, comme ça a été expliqué, puisé dans la première grande partie de la Bible. Le roi promis aux Israélites, le grand roi tant attendu, le grand sauveur, arrive. Et à l'époque de Jésus, il y avait une attente concernant ce roi sauveur. Les Juifs considéraient en effet qu'ils avaient besoin de délivrance face à leurs ennemis, les Romains. Ce roi sauveur allait remporter la victoire au plan militaire en faveur des Juifs. Et effectivement, nous savons à partir de la littérature juive de l'époque qu'il y avait au moins un bon nombre de Juifs qui s'attendaient à ce roi politique, nationaliste, militaire. Et cette attente semble également reflétée dans les biographie de Jésus qui se trouve dans la Bible. Après avoir multiplié les pains, Jésus a dû se retirer parce qu'il savait que les uns et les autres voulaient l'enlever de force pour le faire roi. Et cette attente d'un roi politique, nationaliste, militaire, semble même refléter chez les disciples de Jésus. Par exemple, deux paragraphes avant le nôtre, voici la demande faite par la mère de deux apôtres, Jacques et Jean. Je cite, « Ordonne que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Ce qu'elle désire pour ses fils, c'est Bercy et Place Beauvau, quoi. Et vous savez comment Jésus répond? Ça pourrait surprendre, voire choquer. Mais il répond tout de suite en parlant de sa mort et de la signification de sa mort. Il évoque la colère de son père face à la méchanceté des êtres humains. Mais cette colère va tomber sur lui, explique-t-il, sur Jésus. Lui qui est innocent sera puni à la place d'êtres humains coupables. Il explique qu'il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir, et en particulier pour donner sa vie, pour libérer une multitude de gens. Ce Jésus est un roi, mais pas comme les autres. Un roi qui souligne l'importance qu'il meure. Et vous demandez, mais pourquoi devrais-je moi m'intéresser à lui? Moi qui habite au XXIe siècle, à la Garenne-Colombes, à Colombes, non loin, pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser à Jésus? Eh bien justement parce que ce Jésus est le roi de tout l'univers. La prophétie qui trouve son accomplissement ici au moment où Jésus entre dans la ville de Jérusalem, cette prophétie avait aussi précisé que ce roi sauveur, je cite, « allait dominer d'une mer à l'autre jusqu'aux extrémités de la terre ». Le grand roi tant attendu est le roi du monde entier, le propriétaire de toutes les nations, voire le juge de tout être humain, et gare à quiconque oserait dire le concernant. « Oh, Jésus ! Oh, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me concerne pas. C'est quelqu'un d'une éventuelle importance pour les chrétiens, mais pas plus. » Je ne saurais vous dire combien de fois nous l'avons entendu cette semaine. Oh, ça ne m'intéresse pas. Mais là n'est pas la question. Tôt ou tard, cette réaction ne sera pas recevable. On pourrait considérer un parallèle. Question. Avez-vous rempli une déclaration des revenus? Oh, ça ne m'intéresse pas. Mais, tôt ou tard, cette réponse ne sera pas recevable. La façon dont on se positionne vis-à-vis de Jésus est la question de vie ou de mort éternelle pour chaque habitant des Trois Colombes et au-delà. Pourquoi devrais-je m'intéresser à Jésus? Notons également ceci, la prophétie avait aussi précisé que ce roi allait annoncer la paix aux nations. Et vous pourrez être en train de vous dire, mais ça serait bien pour les pays comme la Syrie notamment. C'est vrai qu'on a besoin d'éradiquer les guerres de ce monde. Mais là où le bât blesse, c'est dans ce constat. Par nature, chaque être humain est en guerre contre Dieu. Combien de fois nous l'avons entendu cette semaine? Oh, je n'ai fait de mal à personne! Et le fait est que nous, êtres humains, nous sommes rebelles contre Dieu, insoumis à son égard, naturellement préoccupés par notre honneur, mais non pas par le sien. Rien qu'au niveau de nos pensées, même si vous n'avez pas de cadavre dans le placard, rien qu'au niveau de nos pensées, combien nous aurions honte si rien que les personnes dans cette salle pouvaient accéder à tout ce qui est passé par notre esprit ces dernières 24 heures. Combien plus forte raison devrions-nous avoir peur de la réaction du Dieu envers lequel nous sommes redevables et responsables, celui qui nous a créés, celui qui est notre juge? Mais ce Jésus est un roi, pas comme les autres.
Et alors que l'humanité est en guerre contre Dieu, Jésus est venu pour apporter la paix. Il est venu pour assumer la colère de Dieu que nos fautes entraînent. Soyons au clair, Jésus est sur le point d'entrer dans Jérusalem. Il va être intronisé, il va remporter la victoire. Mais ce n'est pas un roi comme les autres. Son intronisation et sa victoire se situent dans sa mort. Ce qui fait qu'il offre la paix et non la destruction à quiconque sera prêt à se soumettre à son autorité royale. Cette paix est offerte gratuitement, un cadeau. Mais ce qui est intriguant, c'est que la notion d'un cadeau est remarquablement difficile à saisir. S'il y a une thématique qui m'a particulièrement frappé cette semaine lors de nos conversations et qui est revenue sans cesse, c'est la difficulté qu'éprouvent nos interlocuteurs à comprendre ce qu'est un cadeau. Nous avons parlé du jugement à venir, du jugement dernier, du moment où chaque être humain devra rendre des comptes à Dieu. Et dans conversation après conversation après conversation, nous avons essayé d'expliquer qu'il est possible d'être jugé non pas sur la base de ses propres actions, mais sur la base des actions de Jésus-Christ. Nous avons essayé d'expliquer que le verdict, si nous sommes jugés sur la base des actions de Jésus-Christ, c'est que nous sommes justes, innocents, parfaits. Nous avons essayé d'expliquer que nous serons jugés sur la base des actions de Jésus-Christ si nous nous confions en lui, si nous le reconnaissons comme Seigneur, si nous nous rangeons derrière lui. Oh oui, nous pouvons être jugés sur la base de nos propres œuvres, et cela va conduire à l'enfer. Jésus est très clair sur ce point dans cette biographie. Lisez le chapitre 13 et vous verrez. Mais si nous nous approprions le pardon de nos fautes offertes gratuitement, nous sommes unis à Jésus-Christ et c'est sa prestation parfaite qui compte en notre faveur. C'est trop simple? C'est trop beau? C'est trop généreux? Moi, je sais très bien. Recevoir des cadeaux, ce n'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu du mal cette semaine auprès de mes hôtes à accepter de me faire emmener à Argenteuil alors que j'aurais pu prendre le train. Je ne dis pas que recevoir soit toujours facile. Mais là, vous voyez l'enjeu. C'est la question de la vie ou de la mort. Soit on place la confiance en Jésus, soit on fait face à une condamnation effroyable. Et si vous n'êtes pas encore soumis à Jésus-Christ, si vous n'avez pas encore placé votre confiance en lui, si vous n'êtes pas encore au bénéfice de la victoire qu'il a remportée sur la croix, le moment de régler ça, c'est aujourd'hui. N'hésitez pas à parler avec le pasteur Trevor qui a fait les annonces, ou un autre responsable de l'Église, ou moi-même. Qui est Jésus? Le roi de tout l'univers, mais un roi pas comme les autres. La prophétie qui s'accomplit le souligne. Il est plein de douceur et monté sur un âne, le roi humble. Oh, à coup sûr, Jésus remporte la victoire. Mais comment? Par l'humilité. En souffrant. En mourant. Et depuis le chapitre 16 en particulier, c'est un thème qui revient. Jésus doit souffrir, Jésus doit mourir, Jésus doit mourir. Au chapitre 11, Jésus est décrit comme étant doux et humble de cœur. Le chapitre 12 encore souligne sa douceur.
qui est Jésus? Qu'en est-il de la suggestion comme quoi c'est un guérisseur puissant? Est-ce qu'il est trop doux pour que ça soit possible? Au contraire, nous constatons un peu plus loin dans notre chapitre, il guérit des aveugles et des boiteux. Mais cela me trouble lorsque l'accent est placé, comme lors de l'une des conversations de cette semaine, lorsque l'accent est placé sur le Jésus guérisseur aux dépens du Jésus humble qui souffre pour apporter le pardon de nos péchés. C'est là où l'accent est placé, non seulement dans notre passage, mais dans la Bible tout entière. Et sous ce rapport, il y a même un danger avec la façon traditionnelle de désigner cet épisode dans la vie de Jésus. Dans la version de la Bible que nous avons sous les yeux, le titre qui est donné en gras, vous savez que des éditeurs ajoutent des titres en gras qui ne font pas partie de la Bible elle-même, mais qui sont là pour nous aider avec notre découpage, avec notre lecture, nous situer dans le déroulement de la biographie. Et là, nous lisons juste au-dessus de la portion qui nous intéresse aujourd'hui. « Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ». Je suggère humblement qu'on ne devrait pas penser en termes d'une entrée triomphale. Avec l'expression « entrée triomphale », nous risquons d'avoir en tête le roi soleil monté sur un cheval de guerre, en train de faire étalage de sa suprématie militaire. Mais justement pas. Justement pas. Jésus est monté sur un âne. Ou plus exactement, sur un ânon. Un petit. Il faudrait penser en termes de paix, d'humilité, de douceur, et ultimement de souffrance et de mort. Ce Jésus est un roi, mais pas comme les autres. Mais dans un sens, les foules n'ont pas tort de faire preuve d'enthousiasme. C'est ce que nous observons dans la suite, dans les phrases marquées 6 à 9, notre troisième point, un accueil enthousiaste. À partir du petit 6, un accueil enthousiaste. Et si vous êtes en train de vous demander par rapport au petit 7 là, pourquoi il est question à la fois d'une ânesse et d'un ânon, la réponse réside sans doute dans le fait que la mère devait être présente pour calmer son petit. La biographie de Marc précise que jusque-là personne n'était monté sur cet ânon. Et nous savons grâce aux autres biographies dans la Bible que ce n'est que sur l'ânon que Jésus monte et non pas sur la mère, l'ânesse. Mais comment comprendre les vêtements étendus sur le chemin dans la phrase marquée 8? Et les branches ou les rameaux qui sont également répandus sur le chemin? Alors, nous savons grâce à la biographie de Jean qu'il s'agit de branches de palmier. Vêtements et branches de palmier placées sur la route. Eh bien, ça correspond au tapis rouge, en quelque sorte. Les foules souhaitent honorer le roi. Bon, ce n'est pas la première fois qu'un tel geste accompagne l'intronisation d'un roi. Dans la première grande partie de la Bible, des vêtements étaient placés sur le chemin pour un certain Jéhu, lorsque lui a été sacré roi. Qui est Jésus? Les foules ont raison de l'acclamer comme étant le roi de la lignée du grand roi David, celui qui vient au nom du Seigneur, phrase 9, ceux qui précédaient, ceux qui suivaient, criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Hosanna, à la base, cela veut dire « sauve, sauve-nous ». Mais il se peut qu'à ce stade, le sens soit plutôt un peu comme « Alléluia » pour exprimer la louange. Et quelle que soit la compréhension précise des foules, leurs propos sont bien ciblés. Même si leur attente est nationaliste, leur cri au verset 9 est puisé à la bonne source. Ils citent en effet un chant qu'on trouve dans la première grande partie de la Bible. Ce chant présente une personne qui vient au nom du Seigneur. Cette personne passe par le rejet, la détresse, des difficultés extrêmes, interprétées comme étant un châtiment sévère administré par Dieu. Il le fait au profit d'autres personnes. Ces autres personnes réagissent avec des cris de joie et de victoire. Je ne suis pas en train de dire que les foules aient compris que Jésus devait souffrir. Mais ce chant cadre en l'occurrence précisément avec tout ce que nous avons vu jusque-là. Victoire par la souffrance. Et nous avons la confirmation un peu plus loin dans cette biographie, dans ce même chapitre, vers la fin. Jésus lui-même cite ce même chant. Jésus, rejeté, mais victorieux. Qui est Jésus? Un roi, mais pas comme les autres. Le roi, mais le roi rejeté, qui souffre. Et justement, que se passe-t-il lorsqu'il entre dans Jérusalem? Dès qu'il y entre, il est accueilli? Oh non. Il est acclamé? Oh non. Son entrée est triomphale? Oh non. Notre dernier point. Une ville troublée. Là où il est marqué 10 et 11. Une ville troublée. Il faut faire la distinction entre deux groupes. Il y a les personnes, les foules donc, qui ont suivi Jésus depuis la Galilée, d'un côté. Et d'un autre côté, il y a la population de Jérusalem. Les personnes qui habitent à Jérusalem, ces personnes-là ne sont pas enthousiastes à son entrée dans la ville. Toute la ville est troublée, lisons-nous. Numéro 10. On disait, qui est cet homme? Sont-ils troublés par la possibilité que leur pouvoir soit miné? En tout cas, dans 5 jours, ils sont en train de réclamer sa mort. Jésus, rejeté à Jérusalem. Celui qui doit souffrir. Qui est cet homme? Et leur question trouve une réponse chez les foules ayant suivi Jésus depuis la Galilée. Petit 11. C'est un prophète. Difficile de savoir exactement ce qu'ils avaient en tête là. Mais encore une fois, peut-être disent-ils vrai, mais un peu à leur insu. La première partie de la Bible avait prévu la venue d'un prophète qu'il fallait absolument écouter, un prophète à l'instar de Moïse. Et en l'occurrence, l'un des propos de ce prophète Jésus, l'un des propos que ce prophète martèle, et qu'il faut absolument écouter et enregistrer, c'est justement que lui, le roi, doit souffrir. Qui est ce Jésus? Un prophète? Nous savons à partir du chapitre 16 qu'il y avait des personnes qui concevaient Jésus comme étant un simple prophète. Il est très à la mode aujourd'hui, n'est-ce pas, de considérer Jésus comme étant un simple prophète dans nos conversations avec les musulmans près du grand Leclerc à Colombes. Ils ont parfois essayé de nous persuader qu'ils avaient une haute estime pour ce prophète Jésus. Mais en l'occurrence, pas le Jésus de la Bible. L'islam rejette la divinité du Christ. Rejette la mort du Christ. Et au regard de tout ce que nous avons vu ce matin, ces deux rejets sont impensables. Jésus, le Seigneur, doit mourir. Or, lors de nos conversations de cette semaine, certaines personnes ont bien déclaré que Jésus est le Fils de Dieu. Mais là, il fallait gratter un peu. que ces personnes voulaient dire par là. Même l'apôtre Pierre avait à un moment donné affirmé que Jésus était le Fils de Dieu, mais tout en étant le porte-parole de Satan. Comment ça? Eh bien, justement, parce qu'il avait négligé d'intégrer la réalité que le Fils de Dieu devait souffrir et mourir. C'est en regardant la croix que nous pouvons dire avec le centurion, l'officier romain au chapitre 27. C'est lorsque nous contemplons sa mort que nous pouvons dire « Oui, cet homme était vraiment le Fils de Dieu, vous voyez. » J'espère que vous n'avez pas oublié la petite histoire du début. Un couple de cette église, gentiment hébergé Sarah durant la semaine, le moment du bilan arrive. Le pasteur Trevor pose cette question à Sarah. Avez-vous remarqué la place que Jésus occupe dans la vie des personnes qui vous ont hébergé cette semaine? Vous savez que Jésus, c'est le roi de l'univers qu'il faudrait adorer. Avez-vous remarqué cette adoration chez les personnes qui vous ont logé? Sarah, avez-vous décelé chez ces personnes un peu de joie, des affections portées vers Jésus? Peut-être des prières authentiques dont vous avez été témoin, qui vous ont frappé. Est-ce que ces personnes ont déroulé le tapis rouge en quelque sorte pour Jésus? Sont-ils enthousiastes concernant ce que Jésus dit? Est-ce qu'ils aiment la Bible? Avez-vous remarqué la façon dont ils s'expriment? Leur attitude envers les autres, le fait qu'ils pensent aux autres. Toutes ces caractéristiques-là sont des marques de l'adoration du roi. Et si vous avez pu connaître l'utilisation de leur argent, de leur temps, de leur corps, l'adoration de ce roi est claire dans leur vie. Et Sarah, une autre chose, ils savent que ce roi a souffert à leur place. Ils sont troublés par leurs insuffisances, ils sont conscients de tout ce qui ne va pas dans la vie. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'ils valorisent le pardon de leur faute? Ils sont libérés, n'est-ce pas? Plus de sentiments de culpabilité. Vous avez décelé la joie? Oh Sarah, Jésus s'est donné dans le service des autres. Est-ce que vous avez remarqué ça chez ce couple qui vous a hébergé? Il se rend tout petit, n'est-ce pas? Cela pour servir humblement. Oh Sarah, tout cela donne envie, n'est-ce pas? Caroline avait raison, n'est-ce pas? Et vous aussi, Sarah, vous pouvez entrer en relation avec Dieu, ne plus devoir payer pour vos fautes. La paix vous est offerte. Mais oui, vous pouvez commencer une vie nouvelle d'adoration et de service de ce roi qui est vraiment pas comme les autres, le roi de l'univers, mais doux et humble.
Terminons dans la prière. Et Père Céleste, merci pour ce que nous avons entendu aujourd'hui. Merci parce qu'effectivement, nous voulons toujours nous poser la question, qui est vraiment Jésus? Ce roi serviteur, mais qui est maintenant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a vaincu la mort, Seigneur. Merci d'imprimer en nous cette réalité. Peut-être qu'il y a ici des personnes qui rejettent